les amoureuses, celles qui se donnaient nu au voyage de fileuses, se sont posées sur la glu. Mes amis, les baladeuses, que Ruisseau baptiserait, mes murmures, la voix charmeuse, d'eau trouble vous bénirait.
C'est une chanson écrite par votre mère, en fait, Aurélien Barreau.
Oui, écrite par ma maman quand elle avait 20 ans, et je trouve qu'elle est très belle cette chanson parce qu'elle semble désuète, et si on avait pu l'écouter jusqu'au bout, on aurait découvert qu'elle était en réalité tragique, comme ce monde. Et puis elle est à contre-temps aussi cette chanson, hein. Elle était, ça encore on n'a pas pu se rendre compte, mais elle était très féministe, et ce bien avant l'heure. Et puis là elle est interprétée par Leïla Huissou, qui est une chanteuse remarquable. C'est quelqu'un qui a le don, je trouve, d'habiter en quelque sorte frénétiquement la faille. Leïla, c'est un peu une poussière de son, et puis j'aime beaucoup cette manière de se jouer de soi, d'inventer un porte-à-faux qui résiste, qui perdure, et je trouve ça très, très émouvant.
C'est une tradition, chaque semaine nous proposons à nos invités de s'arrêter, d'épingler un temps fort de l'actualité. Et vous, ce qui vous a marqué cette semaine, Aurélien Barreau, c'est un papier intitulé « La face cachée du prince William ». Étonnant.
Naturellement, c'est une double provocation. D'une part, bien sûr, parce que je trouve que dans ce genre de ragot, il y a un petit côté vraiment déliquescent, presque décadent, qui a une dimension presque réjouissante. Vous voyez, un petit côté fin de règne comme ça, qui n'en finit pas de nourrir et qui s'exhibe encore et encore dans la hideur de son symbole. Je ne parle pas, hein, soyons bien clairs, que de la monarchie britannique, mais de l'impérialisme globalement, qui est toujours très actuel et dont elle n'aura été que la forme quintessentielle. Et puis, d'autre part, et surtout, si vous voulez, c'était une façon pour moi de souligner, à gros traits, hein, j'en conviens, cette société du spectacle, comme dit Debord, que nous avons construite, et qui contraste à la nausée, pourrait-on dire, avec le tragique de ces dernières semaines. Ce n'est pas à la presse hein, que j'adresse ce reproche, c'est vraiment une critique civilisationnelle quant à la faillite éthique, esthétique et logique de notre monde. Notre passion de ne pas comprendre, de ne pas voir, de ne pas ressentir et de ne pas aimer surtout, a quand même quelque chose de fascinant. Il me semble que nous vivons une sorte de moment de vérité en ce moment. Et comme vous le savez, en grec ancien, la vérité c'est à la fois le dévoilement et la mémoire. Et cette vérité-là qui se dessine en ce moment, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas digne. Elle est même presque fausse de dedans. Je crois qu'il va falloir beaucoup de force et beaucoup de courage pour y reconstruire un peu de cette beauté qui fait vivre. Manifestement, aujourd'hui, les masques tombent. La farce était immense et le pire, je crois, c'est qu'elle n'a jamais été drôle.
Vous parlez de passion de ne pas voir. Pourquoi utiliser ce mot passion, Aurélien Barreau ?
Eh bien, parce qu'étymologiquement, la passion, c'est le contraire de l'action. Et l'action, c'est précisément le poétique. Donc, nous y retournons.
Et venons-en maintenant à l'hypothèse K que vous abordez dans la dernière partie de votre nouvel essai. Votre hypothèse, c'est de dire que le pullulement technique est un cancer technique. Vous écrivez, et je vous cite, « Il n'est pas aberrant de penser à la catastrophe écologique à l'aune d'un déséquilibre devenu intenable entre poussée artistique et pulsion technique. Plus fondamentale encore serait sans doute la conjecture d'un développement littéralement cancéreux de la production technique. Puisqu'en grec ancien, Karkinos désigne le crabe, cette proposition pourrait être nommée hypothèse K. Comment en êtes-vous venu, Aurélien Barreau, à vous tourner vers le monde de la médecine pour formuler cette hypothèse ?
Je crois que le caractère quand même pathologique de notre société ne fait plus question. Et par conséquent, la médecine s'impose de façon presque naturelle. Quant à l'oncologie, c'est-à-dire la médecine qui s'attaque au cancer, elle ne l'est pas moins parce que il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont en grande partie des machines qui construisent des machines, des programmes qui conçoivent des programmes. Alors, nous ne sommes pas, bien sûr, dans un film de science-fiction. Il y a encore un contrôle humain qui a lieu derrière tout ça, c'est tout à fait indéniable. Mais dans une certaine mesure, la sphère technologique a quand même pris son autonomie. Et on le voit très bien, ça, parce que par rapport à beaucoup de nos requêtes de la vie courante, qu'il s'agisse de changer la note d'un étudiant, de changer sa déclaration d'impôt, de changer son billet de train, enfin toutes ces petites choses stupides auxquelles nous sommes confrontés, la réponse la plus usuelle des rares êtres humains auxquels nous parvenons à parler est « j'aimerais le faire, mais le logiciel ne veut pas ». Et c'est vrai que les machines ont un peu pris le pouvoir. Et là, on est vraiment face à quelque chose qui est presque littéralement métastatique. J'aime pas tellement les métaphores. Moi, ça m'intéresse si c'est vrai au sens propre. Parce que la définition même d'un processus cancéreux, c'est-à-dire d'échapper à la sénescence et à l'homéostasie, a lieu. C'est ce qui se passe pour la technique. Et puis, la médecine s'impose, si vous voulez, parce que ce qu'on a compris avec le cancer, c'est que justement, avec les cancers, c'est que précisément, c'est une infection qui est systémique. On ne peut pas simplement regarder l'organe qui est touché, il faut penser l'ensemble du corps. Ce qu'on a compris de très important, c'est que essentiellement, et de façon un peu caricaturale, la curation, ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est la prévention. Ouais. Ça, on ne l'a pas du tout compris encore dans la sphère technologique. Et puis, ce qui est très intéressant en médecine, c'est qu'on sait aussi que pour affronter un adversaire aussi redoutable que les cancers, il faut redéfinir ce qu'on appelle victoire. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est fondamentalement philosophique et qui, là encore, n'a pas fait irruption à ce jour dans le domaine de la technoscience.
La victoire, c'est la guérison ?
Non. Non, parce que nous sommes des vivants et nous allons tous mourir. Donc, et le cancer est vraisemblablement ce qui nous emportera si nous avons eu la chance de survivre à toutes les autres affections et accidents possibles. Donc, c'est pas seulement guérir, c'est de comprendre ce à quoi on est confronté, éventuellement, bien sûr, de prolonger sa vie. Ça, c'est normal, c'est notre pulsion fondamentale, il n'est pas question de la remettre en cause, mais de bien sentir l'adversaire auquel nous sommes confrontés.
La prévention, développer la prévention pour lutter contre ce cancer technologique, c'est faire quoi ? C'est agir, c'est penser de quelle manière ? Vous le savez ça, Aurélien Barraud ?
Permettez-moi de vous proposer l'idée que c'est penser tout court. Penser tout court, c'est l'acte le plus révolutionnaire que l'on puisse faire aujourd'hui.
Et qu'est-ce que ça signifie alors pour vous penser, Aurélien Barraud ?
Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un gourou et je suis encore moins un président de la République. Par conséquent, je ne prétends pas avoir des réponses à toutes les questions.
Oui, mais
je
à un moment dans votre texte, vous écrivez « Osez penser la pensée comme un agir ».
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on aimerait quand on pose la question « Alors ?» Concrètement, que faire ? C'est trouver une sorte de petite recette de cuisine qui permette de continuer exactement pareil, mais en bousillant un peu moins la planète. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, mais c'est pas souhaitable, parce que de toute façon, on vit dans un monde de cons, et de toute façon, ce qu'on fait ne nous rend pas heureux. Donc, il faut même pas essayer de le faire, ça. Moi, je veux même pas essayer de le faire. En revanche,
mais s'il n'y a pas
interroger
recette.
Chacune de nos actions, ça, c'est fondamental. Par exemple, vous disiez tout à l'heure que ma parole était relativement rare. C'est vrai, médiatiquement. J'ai refusé toutes les télévisions, j'ai refusé l'immense majorité des radios, la totalité jusqu'à ce jour des réseaux sociaux là depuis quelques années.
Merci encore d'avoir accepté.
Pourquoi ? Non, mais merci à vous de l'invitation, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. Je n'avais pas envie de maximiser mon impact, de maximiser les ventes de mon livre, de maximiser mon aura médiatique, de maximiser, je ne sais pas, toutes ces choses qui sont censées être positives.
Mais partager vos idées, votre parole.
Oui, avec mesure, dans un geste qui ne participe pas à ce que Grothendieck appelle le bruit. Mais ce n'est qu'un exemple infime, pour simplement dire que, en fait, nous ne nous posons presque jamais la question de ce que nous voulons vraiment. Et c'est ça le geste absolument révolutionnaire, c'est se rendre compte que l'immense majorité de nos actions sont orthogonales, ou en tous les cas non parallèles, à nos désirs profonds. Mais c'est déjà immense de se rendre compte de ça. Ça réoriente entièrement notre rapport au monde, notre rapport aux autres, et puis même notre construction de ce que sont les objets fondamentaux.
Ces cancers techniques, ils provoquent forcément des cancers biologiques, Aurélien Barraud ?
Oui, alors ça, c'est presque le côté un peu drôle, enfin disons tristement drôle de l'affaire. C'est qu'effectivement, on sait en plus que beaucoup des polluants éternels et de l'artificialisation des sols auxquels nous sommes confrontés va induire effectivement un nombre relativement considérable de cancers biologiques. Mais une fois de plus, ça c'est le petit bout de la lorgnette. C'est simplement se dire, attention, il y a un effet secondaire immédiat qui est évidemment regrettable dans ce que nous construisons. construisons, parce que, si vous voulez, la problématique, elle est très simple, c'est une question de dosage. Vous savez que ceux qui refusent de penser, ceux qui ne suivent pas le conseil que nous avons donné à l'instant, vont arguer de façon pavlovienne, mais vous voulez donc revenir à l'âge des cavernes, on est quand même bien content d'avoir tel ou tel objet technique qui permet de nous sauver la vie. Ben oui, mais je ne veux même plus y répondre. Qu'est-ce que vous voulez? Face à l'immensité de la bêtise, il faut opposer l'immensité du retrait. Si, néanmoins, en une phrase, je faisais une exception, je tenterais d'arguer que la technique, vous avez l'air quand même content, hein, je réponds, que la technique, c'est comme tout le reste, c'est une question de dose. Quand vous êtes rachitique, il faut manger, ça vous sauve. Quand vous êtes obèse, ça vous tue. Évidemment, c'est vrai pour absolument tout, quel que soit ce que vous considérez dans votre vie, il y a un dosage pour lequel c'est favorable et un dosage pour lequel ça redevient défavorable. C'est vrai pour absolument tout. Nous n'avons simplement pas compris que c'est vrai aussi pour la technique. Donc, favoriser le pullulement métastatique du développement exponentiel des machines au motif que la technique nous a été utile quand elle émergeait et qu'elle demeurait raisonnable dans notre sphère d'agir, est un argument absolument irrecevable.
Tenez, j'aimerais encore vous faire écouter cette voix.
Ce que nous avons à faire maintenant, c'est ouvrir un nouvel espace pour du sens. Vous savez, il y a une formule posthume de Nietzsche qui est introduire un nouveau sens, voilà la tâche, à condition de bien comprendre que cette tâche elle-même n'a pas de sens. C'est quand même assez spectaculaire, et ce n'est pas Nietzsche comme ça qui est spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, c'est de se rendre compte que beaucoup de choses ont été senties, pressenties par des gens comme Nietzsche, comme Rimbaud. Quand même, ces gens-là, ils ont su quelque chose de ce dans quoi l'Europe, comme on dit l'Occident, était en train d'entrer. Ils l'ont su longtemps, longtemps avant que nous le sachions. Et là, on peut aussi se demander, maintenant, où y a-t-il des voix qui feraient entendre quelque chose? Où est Rimbaud aujourd'hui?
Le philosophe Jean-Luc Nancy, en février 2009, sur France Culture, vous le citez d'ailleurs dans votre nouveau texte, ouvrir un nouvel espace pour du sens, c'est tout l'enjeu, Aurélien Barreau.
Mais j'ai reconnu sa voix à la première syllabe. Il me manque beaucoup, hein, Jean-Luc, qui est décédé, hélas, il y a relativement peu de temps. Mm-hmm. Il disait d'ailleurs qu'il n'y a pas de sens du monde et que c'est cela qui est adorable. Et un de ses derniers petits fascicules se nomme « L'infinité du progrès est un mauvais infini ». Naturellement, il joue sur l'ambiguïté du mot « progrès » qui, pour lui, n'est pas un progrès véritable, mais un progrès artificiel, pour ne pas dire artefactuel. Oui, le sens, c'est quelque chose de très fondamental en philosophie, de très délicat à définir. Moi, je ne connais pas le sens du sens, et c'est ça qui est fondamental. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue que rien ne peut se faire sans qu'il y ait au moins un petit surgissement de sens local. Il n'y a peut-être pas de sens global, c'est pas très important, je crois, de se mouvoir comme ça dans une sorte de chaos. En revanche, s'il n'y a pas un peu de sens local, alors effectivement, c'est un effondrement total de la pensée et même de la direction de l'agir. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est en quelque sorte le réflexe conditionné qui prend le relais de la pensée.
Qu'est-ce que ça peut être, le sens local ?
Eh bien, le sens local, il est partout, en fait. Le sens local, ça veut dire peut-être, pour être clair, réhabiliter la relation en lieu et place de l'objet. Vous voyez, on vit dans un monde qui est formé de choses. Mmh. Finalement, ce que nous enseigne la mécanique quantique, au moins dans certaines interprétations récentes, c'est que les objets fondamentaux, ce ne sont peut-être pas les choses, mais ce sont les relations entre les choses. Voilà, par exemple, une proposition qui peut totalement renouveler le sens local sans nécessairement s'insérer dans une grande révolution systémique majeure. Nous n'avons pas besoin du grand soir. Voilà, les petites soirées, c'est très beau aussi. Mmh.
Jean-Luc Nancy parlait aussi de l'importance de sentir, de ressentir. C'est fondamental, ça, aujourd'hui ?
Je me garderai de grandes assertions qui sont censées valoir pour tous et pour toutes. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de comprendre que nous n'avons pas besoin d'une énergie propre. Pardon, j'y reviens un instant. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de renouveler le matériau à partir duquel nous construisons nos lignes de vie ou nos lignes de fuite, comme disait Gilles Deleuze. Alors, On parle beaucoup de reconnexion, on parle beaucoup de sensibilité, oui. On parle parfois de sensualité. Ça doit demeurer chaotique, vous voyez, ça doit demeurer fractal, ça doit se diffracter comme ça, je crois, dans chacun d'entre nous. Rien ne serait pire que de décréter de façon autoritaire et globale que c'est ainsi qu'il faut vivre. Qui suis-je et qui êtes-vous pour pouvoir décider pour tous et pour toutes de ce qu'est un bien-vivre? Ce qui est certain, c'est que nous avons totalement atrophié le réel. Et que si aujourd'hui, on va regarder d'autres cultures, ça ne devrait surtout pas être avec l'idée de leur expliquer le problème écologique ou de leur expliquer comment produire des énergies propres, ça devrait être avec le désir d'apprendre d'elles d'autres manières d'habiter le monde. C'est ça qui est important. Alors, que ça passe par le sensible ou non, ça je crois que c'est une question qui est parfaitement ouverte.
Habiter poétiquement le monde, c'est ce que vous nous recommandez. Comment est-ce que vous y prenez, vous, pour habiter poétiquement le monde ?
Oui, peut-être d'ailleurs qu'il faudrait plutôt dire être poétiquement habité par le monde. Je crois que c'est presque encore mieux de le sentir comme ça. Antonin Artaud, le grand poète, disait que sous la poésie des textes, il y a la poésie tout court, sans forme et sans texte. Voilà, c'est ça moi qui m'intéresse. Vous voyez, pour être très clair, le poétique, je crois que c'est ce qui échappe au langage. Et c'est pour ça que la langue de la poésie est si complexe. C'est parce que précisément la langue de la poésie tente de dire ce qui ne peut pas être dit. Le poétique en tant que tel, c'est très concret, c'est pas du tout un petit livre comme ça, intellectuel, qu'on va acheter dans une librairie. Le poétique, c'est le sauvage, c'est l'indigène, c'est la présence pleine et entière du monde, de soi et de soi dans le monde. C'est l'imprévu, c'est le surgissement. Alors, je sais pas du tout si j'y parviens, hein, pour être honnête, et je ne me permettrai pas de donner des leçons à qui que ce soit. Je suis plutôt
en train d'apprendre. Mais quelles sont vos tentatives alors, et comment apprenez-vous ?
Mais peu importe, je veux dire, ce qui est fondamental, c'est de réenchanter un monde qui n'est pas seulement désenchanté, qui est entièrement réifié, c'est-à-dire qui a choisi la communication contre la communion. Comment Aurélien Barreau tente de communier avec ses semblables n'a honnêtement aucun intérêt. Et en plus, je ne suis pas du tout certain d'être le mieux placé pour donner des leçons de vie à qui que ce soit. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'on devrait réhabiliter l'importance, la beauté, la légitimité et le caractère central de ces choses. Ce ne sont pas des petites décorations que l'on peut s'autoriser le soir entre 22h30 et 23h. Non, c'est le cœur de l'existence. Le travail, la production économique, tout ça, ça c'est le détail. C'est ce qui permet de subvenir à ses besoins parce qu'en effet, il faut se loger et manger. Tout le monde en convient.
Mais ça, c'est très secondaire, ça.
L'important, c'est le poétique, c'est-à-dire tout le reste, c'est-à-dire la vie en elle-même, c'est-à-dire, pour être très clair, le désir et non pas le besoin, c'est-à-dire la création et non pas la fabrication.
Aurélien Barreau est sur la première.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Pour ce week-end, pour ces prochains jours, dites-nous.
Alors, une double recommandation, mais très rapide. D'abord, Troubles, des lectures militantes et dérangeantes de ma copine Béatrice Dahl avec Virginie Despentes et Cazet. J'ai vu ça il y a quelques jours, c'est beau comme la peur, pour reprendre les mots de bataille. Et mon autre recommandation, c'est de se souvenir que la distinction entre culture et nature est une invention un peu folle de la métaphysique occidentale. Et donc, regardez un pigeon. Regardez un pigeon avec amour, non pas un aigle royal, hein, bien sûr, ou un vautour de l'Himalaya, ça c'est beaucoup trop facile. Non, non, un simple pigeon pour y déceler cette incroyable grâce que nous nous évertuons à ne pas voir. Et ça, c'est une expérience absolue qui est à la fois naturelle, culturelle, poétique, révolutionnaire et résistante.
Et on peut, si on le souhaite également, relire Philippe Descola. J'ai encore deux petites questions à vous poser. Question de saison, en quelques mots, qu'allez-vous retenir de 2023 ?
Beaucoup de larmes, beaucoup de bombes et beaucoup de regrets.
Et quel est votre plus grand souhait pour 2024 ?
Ah, écoutez, demain n'est jamais écrit. J'aimerais qu'en 2024, on se souvienne à la fin de l'année de l'infime et non pas des catastrophes macroscopiques qui structurent en quelque sorte l'effondrement à grande échelle.
Merci Aurélien Barreau d'avoir été avec nous.